Le monde d'Ulysse avec Kevin Gilbert sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Ciel. Vous êtes sur l'émission Le Monde d'Ulysse, l'émission consacrée à l'histoire grecque, où nous allons continuer notre aventure concernant la colonisation grecque. Le mois dernier, nous étions arrêtés lors de cette première phase de la colonisation, donc au tout début du 7e siècle avant Jésus-Christ, où ces Grecs vont s'installer et s'aimer dans toute la Méditerranée à la recherche de nouvelles terres à coloniser, pour répondre, comme nous l'avons vu le mois dernier, pour répondre à ce problème démographique et répondre à la question agraire. Nous entrons donc pour cette deuxième partie consacrée à la colonisation archaïque, donc entre le 8e et le 6e siècle, mais là nous allons donc nous intéresser à cette deuxième phase, d'accord ? Donc cette deuxième phase de la colonisation archaïque, donc qui s'étend aux alentours des 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ. C'est une phase donc, de colonies qu'on appelle traditionnellement les colonies des confins et les colonies des tyrannies. Donc nous allons, au cours de cette émission, expliquer pourquoi. Donc on observe une seconde période dans le mouvement de la colonisation. Donc ce mouvement démarre aux alentours de 675 avant Jésus-Christ pour se terminer aux alentours de 550 avant Jésus-Christ. Ces colonies sont installées de plus en plus loin de la mer Égée, d'où le terme de colonie des confins. Géographiquement, cette période correspond à une avancée extrême de la colonisation aussi bien orientale qu'occidentale. C'est-à-dire qu'on va repousser les marges en Occident, donc on va notamment s'intéresser ici à la colonisation du sud de la Gaule, de l'Espagne, et aussi tout le pourtour du bassin de la mer Noire, qu'on appelle à cette époque, comme nous l'avions vu le mois dernier, le pont Euxin. Cette deuxième phase se caractérise par un renforcement des préoccupations ici commerciales dans les fondations. Ces colonies se rapprochent davantage donc du modèle, comme on a vu le mois dernier, de l'Emporion. Si dans un premier temps la colonisation c'était surtout une cité qui était fondée, donc la cité, la ville était fondée en elle-même, mais c'était surtout ce qui intéressait les Grecs, c'était ce qu'on appelait la Kora, donc c'est-à-dire la campagne autour de la cité qui permettait justement de cultiver des terres, de nourrir la population afin de répondre aux problèmes agraires que connaissait la Grèce de l'époque. Là, en fait, on va plutôt se rendre compte que c'est ce recours aux emporia, donc le pluriel d'emporion, qui va reprendre, comme on va le voir tout de suite, les caractéristiques de l'implantation de la cité de Phocée. On aura surtout des cités avec un territoire très limité et qui vont surtout se concentrer sur le développement portuaire. Donc, comme je viens de le dire, ce recours aux comptoirs commerciaux Emporion, pluriel Emporia, va un petit peu copier, va un petit peu, comment dire, avoir pour modèle le système donc, de la cité de Phocée, notamment en Occident. Donc, la cité de Phocée se situe donc en Asie mineure, en Turquie actuelle, et elle va fonder une série de colonies dans l'ouest de la Méditerranée. Donc ces cités n'ont quasiment pas d'arrière-pays, même dans le cas de sa plus grande fondation, donc la cité de Massalia, Marseille actuellement, fondée aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Donc Phocée va tenter de maintenir des liens très étroits avec ses colonies, ce qui va constituer ainsi une véritable chaîne d'établissements commerciaux, on pourrait dire un véritable réseau commercial, avec toujours un regard, une implication de la métropole, donc de la cité mère, c'est-à-dire Phocée. Donc on aura donc un véritable relais, un véritable réseau qui va s'étendre donc du nord de l'Italie, quasiment de la cité de Gênes, jusqu'au nord de la péninsule ibérique avec la cité d'Emporion. Donc correspond à peu près à la région actuelle de la Catalogne. Autre particularité de ces colonies, notamment dans la Méditerranée gauloise et dans la mer Noire, c'est qu'elles vont être dominées vraiment par une métropole. On aura vraiment une cité mère qui ne va pas se contenter juste de fonder des cités, mais qui va avoir une réelle implication, qui va vraiment dominer tout ce réseau. Donc on vient de le voir, donc Phocée pour le littoral gaulois, donc plutôt pour l'Occident méditerranéen, et pour l'Orient méditerranéen et la mer Noire, surtout, ce sera une autre cité, elle aussi d'Asie mineure, la cité de Milet. On parle parfois même, pour caractériser la mer Noire et le pont Euxin, on parle même parfois de lac milésien, pour vous montrer vraiment la domination de la cité de Milet dans cet espace géographique. Donc, si on retourne à Phocée, bien que Phocée soit détruite en 545 avant Jésus-Christ par les Perses, donc la domination phocéenne va tout de même perdurer via l'intermédiaire de Marseille, puisque en fait c'est elle qui va reprendre le flambeau quand la cité mère va être détruite. C'est Marseille qui va se retrouver à la tête de ce vaste réseau commercial, et elle-même va devenir une métropole en fondant ses propres colonies. Donc ça montre bien qu'on a vraiment une sorte de pyramide avec à la tête une cité, donc une métropole qui va dominer les autres cités, donc filles, les fondations, pour vraiment dominer tout un réseau à vocation commerciale. Vous êtes sur Radio Grand Ciel, nous sommes toujours sur Le Monde d'Ulysse, votre émission consacrée à l'histoire grecque, où nous traitons ici et encore de la colonisation grecque, plus précisément de la deuxième phase de cette colonisation, donc des années 675 avant Jésus-Christ aux années 550 avant. Donc la constitution de puissances maritimes telles que Phocée dans l'Occident, Milet en Orient, donc des cités qu'on pourrait qualifier de véritables qui vont vraiment mettre en place, qu'on pourrait dire, des vraies thalassocraties, hein, thalassocraties régionales, sont à mettre en relation avec nouvelles formes de colonies qui apparaissent au VIe siècle. Certains historiens, notamment l'historien Claude Mossé, parlent de colonies ou de colonisation impérialiste. En effet, ces colonies sont fondées par des tyrans. Alors, la tyrannie, c'est vraiment une particularité politique de la Grèce archaïque. En fait, un tyran, qu'est-ce que c'est? Donc, très rapidement, c'est un personnage qui dispose d'un pouvoir absolu ou quasi absolu, et qui l'a pris ce pouvoir d'une manière illégale. Hein, c'est vraiment un pouvoir illégitime, très souvent pris par la force. Donc, on pense souvent le tyran le plus connu, c'est très certainement Pisistrate, hein, le tyran d'Athènes. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet, puisque bientôt une émission sera consacrée exclusivement sur Athènes. Et très souvent, donc, ce tyran donc s'appuie sur donc le démos, le peuple, pour gouverner. Donc, on a une vision nous donc actuellement donc la vision contemporaine du tyran. On ne peut pas la calquer sur le tyran entre guillemets politique, le tyran de la Grèce archaïque. Donc, mais dans tous les cas, donc ces colonies impérialistes ont vraiment ici la volonté donc d'un tyran. Donc on connaît notamment très bien deux exemples, ce sont les cas de Corinthe et d'Athènes qu'on vient d'évoquer juste avant. Donc dans le cas de Corinthe, ces colonies sont particulières, puisqu'elles sont vraiment très étroitement liées, elles restent très très liées, ces colonies, à la métropole. En effet, c'est-à-dire que pour les premières phases de la colonisation, souvenez-vous, le mois dernier, je vous avais expliqué que lorsque des colons quittaient la terre, quittaient la terre-mère, la métropole, c'était vraiment un déchirement, c'était une vraie coupure, une vraie césure. C'est-à-dire qu'en fait, ils changeaient, entre guillemets, en quelque sorte, de nationalité. Ils perdaient la citoyenneté de la métropole. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui, lorsque Syracuse était fondée, les habitants de Syracuse n'étaient plus des citoyens de la cité de Corinthe. Alors que là, justement, ben, la citoyenneté va perdurer, notamment dans le cas de Corinthe. Donc ces colonies impérialistes, en fait, sont vraiment un phénomène à part. On est vraiment face à une nouveauté ici. Les colons qui quittent Corinthe pour aller fonder leur cité restent vraiment des citoyens de Corinthe. Pour Athènes, ben là, la question reste floue, on est un peu dans le doute. Donc c'est vraiment un cas à part pour Athènes. Mais on sait qu'on reste quand même avec une étroitesse politique et très certainement en termes de citoyenneté dans les deux cas. On observe aussi dans ce cas-là une proximité géographique avec la métropole. En effet, si Corinthe va fonder ses colonies plutôt près de la côte adriatique, Athènes va plutôt fonder ses colonies dans le nord de l'Égée. Donc là, on n'est pas comme dans le cas de Milet ou dans le cas de Phocée à s'étendre le plus loin possible pour aller développer les réseaux commerciaux à une échelle beaucoup plus vaste. Là, les tyrans vont essayer d'aller contrôler des terres beaucoup plus près de la cité d'origine, beaucoup plus près de la métropole. Alors, comment est-ce qu'on explique cette nouvelle forme de colonisation? Donc, le premier argument, ce sera un besoin de minerais, notamment d'argent et d'or. Parce que le VIe siècle, ça correspond à une période majeure de l'histoire grecque, puisqu'on c'est là qu'on va commencer à battre la monnaie. Le VIe siècle, c'est l'apparition de la monnaie en Grèce. D'accord? Donc la monnaie, rapidement, vient d'Orient, hein, elle vient des royaumes lydiens, notamment des royaumes de Crésus, d'accord, le premier, qui va introduire la monnaie en Grèce, avec notamment ces monnaies qu'on appelle les chryséides. Donc ces monnaies, elles ne sont pas tout à fait rondes, hein, elles sont circulaires avec... Très souvent, elles sont reconnaissables puisqu'elles sont frappées très, très souvent d'un lion ou d'un léopard, en tout cas d'un félin de grande dimension, hein. pas un chaton, qui fait face très souvent à un taureau. Donc c'est par l'intermédiaire donc, de l'Orient que les Grecs vont connaître la monnaie. Donc pour vous donner un exemple, Corinthe va battre ses premières monnaies en 590 avant Jésus-Christ. Premier argument, un besoin de minerais, besoin de contrôler les routes commerciales, notamment celles qui amènent l'argent et l'or en Grèce. Et ainsi Athènes, pour rester dans cette logique, va chercher à contrôler, elle vise à contrôler l'exploitation du mont Pangée. Donc le mont Pangée, je vous l'avais dit, Athènes va chercher à s'implanter dans le nord de l'Égée, le mont Pangée, comme par hasard, ça se situe où? Entre la Macédoine et la Thrace, donc dans cet espace-là. Mais un autre argument aussi, c'est la volonté de contrôler les circuits commerciaux qui permettent l'approvisionnement en grains, parce qu'on est toujours aussi dans l'optique de répondre à l'accroissement démographique et à s'approvisionner le plus régulièrement possible en grains. Alors ça, c'est quelque chose de très important pour les tyrans, puisque souvenez-vous, je l'ai dit il y a quelques minutes, les tyrans vont s'appuyer pour gouverner sur le démos. Donc si le peuple n'a pas le grain, si le peuple n'a pas de blé, il n'a pas de pain. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qui est facile à soulever. Donc d'où l'intérêt pour les tyrans d'approvisionner le plus régulièrement possible leur cité en grains. Mais aussi, autre argument, les tyrans, en arrivant au pouvoir de manière illégale, vont se faire beaucoup d'ennemis, notamment les vieilles classes aristocratiques qui gouvernaient les cités. Donc l'intérêt d'aller fonder et surtout contrôler totalement des colonies plus ou moins lointaines, ça permet aussi d'éloigner les adversaires politiques. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, nous sommes toujours sur Le Monde d'Ulysse, l'émission consacrée à l'histoire grecque. Nous étions en train de parler donc des fondations coloniales impérialistes, donc ces colonies fondées par des tyrans, et nous étions donc sur deux exemples de cas, les cas de Corinthe et le cas d'Athènes. Donc pour développer un petit peu le rôle de Corinthe, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc Corinthe, dès la seconde moitié du 7e, d'accord, est dirigée par un tyran du nom de Cypselos. Et ce fameux Cypselos, en fait, va envoyer ses fils illégitimes pour fonder des cités dans le proche Occident grec, donc essentiellement, comme je vous l'ai dit, la côte adriatique. Donc ses fils illégitimes dans l'Occident, donc dans l'Adriatique, et le fils légitime de Cypselos, qui s'appelle Périandre, lorsqu'il va hériter du pouvoir de son père, bah lui va vraiment poursuivre cette même politique. Donc pour vous montrer que c'est pas vraiment une décision, comment dire, personnelle d'un tyran, on est vraiment face à une nouvelle phase, puisque ce mouvement va se perdurer de génération en génération, notamment pour le cas de Corinthe. Et ce fameux Périandre, donc le fils du premier tyran Cypselos, il va même plus loin, puisqu'il va même faire la reconquête d'une cité, donc celle de Corcyre, Corfou actuellement, hein, donc entre l'Adriatique et la Grèce continentale. Il va donc la reconquérir, et elle va passer, cette cité de Corcyre, totalement sous le contrôle de cette métropole. Donc, ce qui montre bien qu'on est vraiment dans la recherche de contrôle de réseau. Donc, près de 2 siècles après ces événements, donc aux alentours du début du 5e siècle, lorsque les guerres du 5e, notamment les guerres médiques, donc les guerres qui vont opposer les Perses aux Grecs, donc 490 pour la première, 480 pour la seconde, il y a encore une autre guerre, donc la guerre du Péloponnèse, qui va, elle, perdurer un peu plus longtemps, de 431 à 404, les habitants de ces établissements qui ont été fondés par les tyrans, en fait, ils vont répondre à l'appel de Corinthe. Ils vont se battre pour Corinthe et seront appelés dans les textes, dans les sources, Corinthiens. Ils le font alors qu'on n'a aucune trace d'alliance entre ces cités et Corinthe. Ils auraient très bien pu ne pas répondre à cet appel, rester neutre ou même combattre pour Athènes. Mais en fait, c'est quelque chose d'implicite. Donc c'est quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps, bien après les différentes tyrannies. Pour le cas d'Athènes, donc c'est vraiment sous Pisistrate, hein, je vous l'ai dit, au 6e siècle, qu'on va impulser ce mouvement. Donc Athènes, j'en ai pas trop parlé lors de la première émission, puisqu'en fait Athènes est restée très en retrait de cette première vague de colonisation. C'est justement sous Pisistrate que Athènes va rentrer dans le jeu de la colonisation et dans l'essaimage en Méditerranée. Donc pour Athènes, on trouve aussi, je vous l'ai dit, des similitudes, hein, mais contrairement à Corinthe, Athènes, donc, s'est éloigné de la colonisation, n'a pas participé à cette première vague, mais va vraiment entrer de plein pied donc dès le 6e siècle. Donc l'extension athénienne concerne la mer Égée, d'accord ? Et on a un exemple notamment avec Cigé, donc la cité de Cigé en Asie mineure. Elle va être conquise début du 6e siècle par les Athéniens, donc Athènes est en guerre contre une cité d'Asie mineure qui s'appelle Mytilène, et la cité de Cigé, qui va être donc conquise par les troupes athéniennes de Pisistrate, cette cité va être gouvernée donc aux alentours de 532-530 par un des fils de Pisistrate. Donc le nom, tenez-vous bien, le nom de ce fils, c'est Égésistratos. Donc voilà, ça fera un très beau mot de passe pour vos ordinateurs si vous arrivez à le retenir. Donc encore une fois, pour montrer qu'on a vraiment une volonté de placer un fils, de placer, qu'il soit légitime ou non, de placer en tout cas un proche pour gouverner au nom du tyran. Donc pour montrer qu'on a vraiment la volonté de garder un lien entre les cités conquises ou les cités fondées. Ce qui dénote totalement avec cette première vague de colonisation. Sur Radio Grand Ciel, vous écoutez Le Monde d'Ulysse, consacré ce mois-ci à la colonisation archaïque. Donc nous étions en train d'expliquer que cette seconde phase de colonisation était en quelque sorte une rupture par rapport à ses débuts. notamment avec l'apparition du modèle tyrannique qui va vraiment bouleverser les codes, si on peut appeler ça ainsi, les codes de la colonisation, puisqu'on va garder un lien très étroit entre métropole et colonie. Et on va être face véritablement à des thalassocraties régionales qui vont vouloir conserver une forme d'hégémonie. Et on va observer, si vous voulez, une sorte de poursuite hein, bien après la tyrannie, notamment dans le monde classique à l'époque classique. Donc l'époque classique démarre en 490 à peu près avant Jésus-Christ, donc au temps des guerres médiques, après la victoire d'Athènes sur les Perses, et va se terminer à la mort d'Alexandre le Grand, donc à Babylone, en 323, donc au mois de juin 323 avant Jésus-Christ. Donc au début de cette période, on va observer une forme de continuité, poursuite hégémonique, notamment avec Athènes. Donc on va être face à un phénomène qu'on appelle, si vous voulez, l'archée, donc le fait de dominer, c'est-à-dire qu'en fait l'archée, dans ce cas-là, c'est une métropole qui va dominer un réseau, un espace géographique, un ensemble de cités. Donc pour l'Athènes de l'époque classique, Athènes va en fait bénéficier de son prestige, puisque c'est elle qui va vaincre les Perses par deux fois. La première fois à Marathon, 490, lorsque Miltiade va empêcher le débarquement des Perses sur la plage de Marathon, puis en 480, lorsque Thémistocle, le stratège Thémistocle, va cette fois-ci à Salamine, donc lors d'une bataille navale, mettre en déroute la très nombreuse flotte des Perses. Donc Athènes va se retrouver première puissance de la Grèce, bien que ce soit pas la plus prestigieuse, la plus puissante militairement, puisqu'elle est beaucoup moins glorieuse et moins armée que Sparte, et aussi beaucoup moins riche que Corinthe. Donc c'est vraiment par le prestige qu'elle va amasser lors de ces deux guerres qu'elle va se retrouver donc première puissance et surtout cité la plus prestigieuse de Grèce. Ce qui va lui permettre en 478 de fonder ce qu'on appelle la Ligue de Délos. C'est en fait, si vous voulez, rapidement, très simplement, c'est une Ligue de Délos, c'est donc, si vous voulez, une sorte d'association, une sorte de, comment dire, d'alliance entre cités égéennes, donc de culture ionienne, tout comme Athènes, et c'est Athènes qui va dominer toutes ces cités. Donc Athènes va poursuivre cette politique impérialiste, hein, auréolée par cette gloire, et en plus elle est à la tête d'un réseau là de cités indépendantes les unes des autres, mais qui doivent, sous contrainte, payer un tribut, qui est dans le Parthénon, nouvellement construit sous Périclès, et bien évidemment répondre à l'appel d'Athènes lorsque la guerre s'imposera, notamment lors de la guerre du Péloponnèse. Donc Athènes, je l'avais dit, si elle était restée en retrait de la première vague de colonisation au début de l'époque archaïque, et bien là elle va un petit peu rattraper son retard. On a un cas très particulier, vraiment unique dans le monde grec, c'est la colonie de Thurioi dont j'aimerais vous parler. Donc l'installation des Grecs à Thurioi, donc ici en Italie du Sud, la Grande Grèce, hein, appelée ainsi par les Grecs, est vraiment particulière, c'est vraiment très très rare pour l'époque classique et même pour l'époque archaïque, puisqu'il s'agit d'une fondation dite panhellénique. Donc panhellénique, en fait, qui concerne tous les Grecs. En effet, donc pour l'histoire, pour le contexte, c'est une fondation qui va résulter, qui va découler en fait de la destruction d'une autre cité qu'on appelle Sybaris. Donc la cité de Sybaris, donc elle avait lancé un appel aux Grecs pour reconstruire la cité suite à sa seconde destruction, donc puisqu'en fait elle était entrée en conflit par plusieurs fois, notamment deux fois, contre sa puissante voisine Crotone. Et sa destruction définitive intervient donc en 448-447. Donc on a une première tentative de refondation de Sybaris, hein, mais qui a échoué. Et on va avoir une réinstallation donc sur ce site qui va être un échec. Et donc les colons grecs fondent en 443 la cité de Thurioi. Donc Thurioi, son nom en fait vient de la source qui est pas très loin de Sybaris, du site originel de Sybaris qui s'appelle Thuria. Et donc c'est un historien grec très très célèbre, donc Diodore de Sicile, qui va nous faire parvenir la composition en fait ethnique de ces nouveaux colons qui vont fonder la cité de Thurioi, donc cette cité panhellénique. Donc on a à l'origine donc 10 tribus pour cette nouvelle fondation. Donc les tribus sont en fait les colons sont regroupés en tribus en fonction de leur provenance géographique. Donc on a des Péloponnésiens, on a des Béotiens, on a des Eubéens, On a donc des insulaires, donc des gens qui proviennent de la mer Égée, notamment des Athéniens. Et l'immense majorité des colons, donc plus de la moitié, proviennent d'Athènes et des cités donc de l'Égée, donc dominées par Athènes, donc appartenant très certainement à la Ligue de Délos. Et donc le plus célèbre colon de Thurioi, c'est aussi pour ça que je vous en parle, hein, c'est le voyageur et historien Hérodote, donc Hérodote d'Halicarnasse, le père de l'histoire. Donc. Qui lui, en fait, pour l'histoire, est expulsé de sa cité par un tyran. Il va voyager dans les contrées, entre guillemets, barbares, donc qui ne maîtrise pas le grec, notamment l'Égypte, la Babylonie, donc il va aller très très loin, il va beaucoup circuler, beaucoup voyager. Et il va séjourner à Athènes, donc dans les années 450, et il va se joindre donc à l'expédition, donc à l'aventure, avec les colons, qui partent pour Thurioi en 443. Et c'est dans cette colonie justement qu'il va trouver la mort. Donc l'auteur donc des Historiae, donc les enquêtes, qui a donné donc le terme d'histoire, donc qui provient justement du terme grec qui veut dire enquête. Donc c'est donc dans cette Thurioi qu'il va trouver la mort en 425. Donc Athènes va poursuivre cette politique, comme je le disais, impérialiste, avec une petite dérivation de la colonie. Puisqu'Athènes va non plus passer dans le système colonial classique, mais va fonder ce qu'on appelle en fait des clérouquies. Donc des clérouquies, très rapidement, donc je ne vais pas m'étendre très très longtemps sur le sujet, puisque je vais en parler plus largement et de manière beaucoup plus complète lorsque je ferai mon émission consacrée à Athènes. Les clérouquies, en fait, ce sont des terres possédées par des Athéniens, c'est en gros, mais hors d'Athènes. C'est en quelque sorte, si vous voulez, Athènes, mais à l'étranger. Là, ce sont donc des colonies, même si le terme de colonie est impropre, qui appartiennent à des Athéniens, donc peuplées par des citoyens athéniens, souvent des guerriers, donc des citoyens paysans, soldats, capables de se défendre en cas d'invasion, placés sur des points stratégiques, notamment sur les points qui permettent de relier Athènes à la mer Noire, au pont Euxin, afin de faciliter le ravitaillement en blé, car je vous le rappelle, le pont Euxin, c'est le grenier à blé, c'est la principale source, avec l'Égypte et la Cyrénaïque, la principale source de blé, donc de la Grèce. Et donc ces clérouques, d'accord, donc les habitants des clérouquies, nous posent un petit problème de définition, puisqu'en fait, certes, ce sont des immigrés qui conservent leur citoyenneté athénienne, mais ils ont la charge de protéger, de mettre en culture, de développer les terres, souvent qu'Athènes a confisquées à des populations locales, donc, ou à des cités ennemies, ou à des peuples autochtones. Mais on n'a pas, ici, si vous voulez, de fondateur, on n'a pas de demande faite à la Pythie de Delphes, donc on est, si vous voulez, un petit peu dans la périphérie de la colonisation, mais on reste quand même dans la continuité de ce qu'on avait vu avant sur le développement donc du réseau athénien qu'on avait déjà vu sous la tyrannie. Donc, pour conclure cette émission, donc cette double émission sur la colonisation, on peut donc voir que entre le 7e et 6e siècle, on a donc une nouvelle forme qui va modifier profondément les conditions et aussi la définition de qu'est-ce que c'est qu'être un immigré à l'époque grecque. Donc, si on prend le cas des fondations donc des Cypsélides, donc des tyrans de Corinthe, qui est très certainement le cas le plus abouti de la colonisation tyrannique, on se rend compte qu'on est face à une véritable innovation, puisqu'on va vraiment changer dans l'organisation traditionnelle de la colonisation par l'intermédiaire du régime politique de la tyrannie. Donc si on avait, entre guillemets, les colonisations, entre guillemets, démocratiques de la première phase, où on avait vraiment quelque chose de pensé, où c'était vraiment un départ volontaire, hein, entre le 8e et le 7e siècle, les immigrés donc, deviennent indépendants de leur métropole. La rupture, elle est vraiment volontaire, elle est acceptée, d'accord ? C'est vraiment perçu comme étant une nécessité. Donc ces personnes n'avaient vraiment plus de place dans la métropole, c'était des marginaux. Donc la scission était vraiment quelque chose de nécessaire. La tyrannie va vraiment renverser les choses, renverser la perspective. Puisque le tyran, comme je vous l'ai dit, s'appuie sur le démos, tente de répondre aussi à la crise agraire, lui, son moyen de trouver une solution au manque de terres, c'est par le biais non plus de l'éloignement d'une partie de ses citoyens, mais par l'annexion. Donc l'annexion de territoire, donc toujours au-delà des mers, mais assez proche de la cité d'origine. Donc la cité va vraiment agréger, va vraiment capter des espaces nouveaux occupés par ces colons qui vont conserver leur citoyenneté, et qui n'ont plus alors de raison de se couper politiquement de la métropole comme c'était le cas avant. Donc les rapports vont profondément être modifiés, être différents entre le colon et la cité d'origine lors de cette deuxième phase de la colonisation archaïque.
Eu famei to passa e cer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejo e zongo e tornizon, mele e gar pros gemas vaini, foibos a que se comas eu haite.